Littérature sans frontières.
Catherine Fruchon-Toussaint.
Jérémy Besset.
Bonjour à toutes et à tous. Et bienvenue dans l'univers de Marcel Proust, à qui nous consacrons deux émissions, aujourd'hui en studio et demain avec un grand reportage sur les traces littéraires et géographiques de l'écrivain et entre autres une visite dans la maison, la chambre même où commence son œuvre avec cette première phrase inoubliable « Longtemps je me suis couché de bonne heure ». Un doublé exceptionnel donc pour rendre hommage à un auteur non moins exceptionnel dont on fête cette année le centenaire du prix Goncourt qui lui a été décerné. En effet, en 1919, Marcel Proust recevait cette prestigieuse récompense pour son roman « À l'ombre des jeunes filles en fleurs », deuxième volume de son chef-d'œuvre « À la recherche du temps perdu » qui allait en compter 7, dont les trois derniers allaient même paraître à titre posthume jusqu'en 1927, puisque l'écrivain est mort le 18 novembre 1922 à l'âge de 51 ans. Mais avant cette disparition précoce, l'auteur aura la gloire, la célébrité en tout cas, un incroyable retentissement avec ce Graal de la littérature qu'il espérait tant.
Marcel Proust, lorsque je lui ai demandé ce qu'était le prix Goncourt, me répondit que pour lui, c'était le seul prix littéraire qui comptait à ses yeux.
Et c'est donc avec la voix de Céleste Albaret, la gouvernante de Marcel Proust, que nous commençons cette émission en votre compagnie. Bonjour Thierry Lager.
Bonjour.
Vous venez de publier un essai passionnant, très documenté, intitulé « Proust, prix Goncourt » aux éditions Gallimard, qui retrace l'histoire, les coulisses, le contexte et les conséquences de ce prix, car comme vous l'annoncez en sous-titre, ce fut une émeute littéraire. Mais pour mieux comprendre pourquoi il y a eu ce retentissement, et ce pendant des mois, il faut déjà commencer, et c'est ce que vous faites dans votre livre, par expliquer les enjeux du prix Goncourt, une récompense initiée par les frères Goncourt, et qui entre autres avait la vocation de pallier les erreurs de l'Académie française. Voulez-vous bien nous le rappeler, Thierry Lager ?
Oui, les Goncourt avaient remarqué que jamais les romans qu'ils aimaient, en tout cas, mais même ceux qu'ils détestaient, n'étaient récompensés par l'Académie française, qui préférait les épopées, la poésie lyrique, ou les ouvrages de vertu, d'édification morale. Donc, les Goncourt se sont dit, nous allons créer à notre mort un prix qui récompensera un livre paru dans l'année et qui permettra également à une dizaine de nos amis, à qui nous lèguerons une partie de notre fortune, de vivre tranquillement, de se consacrer à leur œuvre, sans avoir à recourir aux besognes du journalisme, car le journalisme était leur ennemi, et en même temps, le moyen de vivre pour bien des écrivains de cette époque. Donc ils ont laissé tous les bibelots qu'ils avaient accumulés, certains étaient des chefs-d'œuvre du dessin, puisqu'ils collectionnaient des dessins du XVIIIe siècle, ils avaient des meubles somptueux, ils avaient une bibliothèque avec des reliures très rare. Tout a été vendu à Drouot, a rapporté plusieurs millions qui ont permis de doter l'Académie Goncourt, qui elle ne s'est vraiment constituée qu'en 1903 après plusieurs procès, parce qu'on pense bien que les héritiers directs ou indirects des Goncourt ne l'entendaient pas de cette oreille et avaient l'intention de récupérer une partie du magot. Ils n'ont pas pu. L'Académie se constitue donc en 1903, mais la plupart des personnalités pressenties pour y siéger n'étaient plus là. Flaubert, Zola était mort depuis longtemps et Alphonse Daudet lui-même, qui devait la présider, n'était plus là. Donc on a eu des personnalités très connues à l'époque, aujourd'hui un peu oubliées, qui ont commencé à décerner des prix. Le premier prix en 1903 était remis à John Antoine No, et tout de suite les journalistes se sont intéressés à cette récompense.
Effectivement, c'est frappant de voir combien très vite le prestige du prix et puis le montant de la dotation, 5000 francs de l'époque, et c'est une belle somme. Donc la récompense est convoitée par les auteurs, par les éditeurs, et c'est à ce titre que déjà en 1913, donc, Marcel Proust est tenté par l'idée de se porter candidat avec son premier roman du côté de chez Swann, mais là il va se rendre compte que les obstacles sont nombreux.
Oui, Proust a été intéressé en 1913, non pas pour les 5000 francs qui n'auraient pas fait une grande différence dans sa fortune qui était immense. Je rappelle qu'il était capable d'offrir à son secrétaire un avion, une Rolls-Royce. Donc les 5000 francs ne comptaient pas. Mais il s'était produit que très rapidement, le prix Goncourt avait eu un effet que les frères Goncourt n'avaient pas prévu. C'est qu'ils avaient augmenté le public, les lecteurs de chaque roman primé, et on pouvait être assuré d'atteindre beaucoup de lecteurs.
Oui, surtout que ça coïncidait aux fêtes de fin d'année, donc c'était le roman que l'on achetait pour mettre sous le sapin comme cadeau.
C'est vrai, à cette époque, le prix Goncourt était remis au mois de décembre. Donc oui, il y avait un enjeu d'élargissement du lectorat qui était considérable. Proust s'est dit, moi qui n'ai pas écrit grand-chose, moi qui ne suis pas connu, il n'avait à cette époque-là publié qu'un seul livre, Les plaisirs et les jours, en 1896, donc il était vraiment un débutant. Et il a pensé que le prix Goncourt pourrait lui permettre de toucher tous ces gens qui ne connaissaient pas son existence. D'autant que du côté de chez Swann n'était pas un livre spécialement facile. Il introduisait une petite révolution romanesque, donc les usages étaient bouleversés et il avait bien conscience que sans la recommandation de l'Académie Goncourt, il avait peu de chances de toucher des lecteurs. Mais il n'était pas seul cette année-là. Et d'ailleurs, 1913 est une année extraordinaire pour la littérature française, pour les arts en général. Quand on pense que à la séance de l'Académie Goncourt de la fin de l'année, il a fallu discuter du Grand Mole d'Alain Fournier, ce qui n'est quand même
pas rien,
de Barnabous de Valérie Larbeau. Il y avait encore des livres de Giraudoux, de Martin Dugard, de Léon Werth, etc. Si bien que le choix était extraordinairement difficile. Comment privilégier parmi tous ces chefs-d'œuvre ?
C'était un grand cru.
C'était un très grand cru. Et curieusement, les Goncourt, après un nombre de délibérations interminables, ont fini par choisir le plus mauvais de tous ces livres, Marc Elder, Le peuple de la mer, que plus personne ne lit, si ce n'est pour se moquer des fois des Goncourt en se disant voilà ce qu'ils avaient préféré à tous ces chefs-d'œuvre et en particulier à du côté de chez Swann qui n'a pas eu une seule voix.
Alors c'est vrai que Marcel Proust se heurte à un mur d'obstacles parce que en effet il faut avoir un réseau et à vous lire Thierry Lager, on comprend que pour gagner ce prix Goncourt il faut faire campagne et que ça se joue autant sur la qualité du roman en lice que sur le carnet d'adresses du candidat. Et quelle a été la stratégie de Proust les années suivantes quand il a vu en 1919 qu'avec son deuxième roman, ou en tout cas le deuxième volume de À la recherche du temps perdu, À l'ombre des jeunes filles en fleurs, il pouvait peut-être prétendre à cette candidature?
Il faut dire qu'il avait face à lui un adversaire redoutable. Et toute sa stratégie, je pense, a été motivée par ce fait. Face à lui, il y avait de nombreux écrivains, mais notamment Roland d'Orgelès. Le prix, pendant toute la guerre, avait été remis à des œuvres qui étaient écrites par des combattants. J'allais dire des anciens combattants, mais non, certains étaient encore dans les tranchées quand sortaient leurs œuvres, ou dans les hôpitaux, les malheureux, parce qu'ils avaient été blessés. Et donc, le prix de 1919 pouvait être encore donné à un écrivain combattant, et d'Orgelès, lui, qui avait été engagé volontaire, alors même qu'il avait tout à fait le droit de ne pas aller faire la guerre, puisqu'il avait des problèmes pulmonaires, mais il avait tenu à partir. Il était un peu plus âgé, d'ailleurs, que la plupart de ses camarades. Il a fait toute la guerre, d'abord dans les tranchées, avec toute l'horreur que l'on imagine. Ensuite, dans l'aviation, il a pris à piloter un avion, son avion s'est écrasé, etc. Il a été cité deux fois à l'ordre du régiment, il a eu la croix de guerre, donc c'était vraiment un héros qui, en plus, avait l'avantage d'avoir écrit un roman qui est très beau, on peut le recommander encore aujourd'hui, il méritait largement le prix Goncourt, mais évidemment, il y avait face à lui Marcel Proust. Donc, Roland d'Orgelès était journaliste, il avait des amis dans toute la presse radicale, socialiste, disons de gauche, et la plupart des journalistes étaient eux-mêmes anciens combattants en 1919. Donc, on peut penser qu'ils auraient tous préféré voir récompenser leur ami, leur camarade, plutôt que ce mondain, déjà beaucoup plus âgé, d'Orgelès avait 34 ans, Proust en avait 47, et on considérait qu'il fallait récompenser les jeunes qui avaient sacrifié une grande partie de leur jeunesse et que l'on pouvait aujourd'hui récompenser. On comprend d'ailleurs que tout cela va déclencher bien des polémiques une fois le résultat connu.
Donc Marcel Proust a l'air d'être l'outsider de la compétition, et en même temps, il va quand même écrire quelques lettres, envoyer quelques livres ici et là, et s'assurer du soutien de personnes dans le jury Goncourt.
Oui, Dorgelès, lui, a compté sur la presse, a compté sur un effet de masse des journalistes qui faisaient pression pour lui. Proust a beaucoup plus compté sur des amitiés au sein du jury. Et il fait campagne auprès de tout le monde. Il commence à faire parler de lui par des relations qui peuvent séduire tel ou tel des membres du jury. Et il finit par l'emporter avec 6 voix contre 4 à Roland Dorgelès.
Mais la victoire n'est pas si facile, parce que ce fameux 10 décembre 1919, à la table du restaurant Drouan, où se réunissent régulièrement les 10 membres de l'Académie Goncourt, ce n'est pas au premier tour qu'il l'emporte.
Non, c'est au 3e tour, mais finalement, ça n'a pas été un prix, en tout cas sur le moment, les délibérations n'ont pas été tumultueuses, contrairement à ce qui avait pu se passer en 1913, ou ce qui pourra se passer bien des fois, et notamment en 1932, pour le vote qui n'a pas abouti au couronnement du voyage au bout de la nuit de Céline. Mais non, en 1919, finalement, il y a eu quelques votes de politesse, on appelle ça des votes de politesse parce que certains jurés, pour ne pas déplaire à des amis à qui ils ont promis leur voix, votent au premier tour pour un roman dont ils savent bien qu'il n'a aucune chance. Ce fut le cas, mais très vite, il a paru qu'il y avait 5 personnes qui votaient pour Proust, quoi qu'il arrive. Il en manquait une pour faire une majorité, c'est le frère de Rony aîné, qui s'appelait donc Rony jeune, cela ne surprendra personne, je pense, qui a changé d'avis, parce qu'on disait qu'il ne votait jamais comme son frère pour tenter de se distinguer d'un homme plus grand que lui. Et pour une fois, il a voté comme son frère, apportant la 6e voix à Proust, qui l'emporte.
Et c'est ainsi donc qu'avec 6 voix contre 4 pour les Croix de Bois de Roland Dorgelès, que Marcel Proust est déclaré le lauréat du prix Goncourt. Comment l'a-t-il appris? C'est la gouvernante Céleste Albaret qui le raconte.
Le jour où le prix lui fut attribué, je peux vous assurer qu'il n'y pensait même pas. Je lui avais servi son café, son déjeuner vers les 3 heures de l'après-midi, et il me demanda de ne le déranger pour personne. À 5 heures arrivèrent Monsieur Gallimard, Monsieur Gide et Monsieur Jacques Rivière, qui m'annoncèrent la victoire de mon maître et qui réclamaient de le voir à l'instant. J'ai répondu que cela était impossible. Toutefois, devant leur insistance, j'allais jusqu'à la chambre de Monsieur Proust et me permettais d'entrer chez lui sans être appelé. Monsieur Proust accepta enfin de les voir quelques minutes et il les congédia aussitôt. La consécration du prix Goncourt lui fut une grande joie, mais ne l'étonna pas. Il lui semblait que c'était justice rendue.
Thank you.
Vous êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières sur RFI dans cette première émission que nous consacrons à Marcel Proust, à l'honneur toute cette année. Demain, nous irons visiter les terres proustiennes en Eure-et-Loir et à Paris, mais aujourd'hui, nous parlons de l'événement qui a marqué sa vie et son œuvre, l'attribution du prix Goncourt en 1919 pour son roman À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Un sacre qui a aussi été un scandale, comme le raconte en détail notre invité aujourd'hui, Thierry Lager, auteur de Proust, prix Goncourt, une émeute littéraire, et une émeute donc puisque en témoignent la presse, les correspondances, les autobiographies et autres documents de l'époque. La France littéraire était en effet divisée en deux, les inconditionnels de Proust et ses détracteurs. Pourquoi autant d'agitation autour de ce prix, Thierry Lager ?
Il y a de nombreuses raisons, je n'aurai sûrement pas le temps de les aborder toutes, mais les principales sont tout de même assez extraordinaires. Il y a d'abord l'âge de Proust. Et alors là, c'est un déluge d'inventions pure et simple. Il avait 47 ans, on a dit qu'il avait 41 ans, qu'il était né en 1852, qu'il avait été le professeur de Léon Daudet, alors qu'il était plus jeune que lui. Comme il disait lui-même, mon âge monte chaque jour comme la barbe des personnages de féerie qui grandissent au fur et à mesure de la pièce. Donc il y avait cette question de l'âge, en effet, on a discuté pour savoir si les Goncourt avaient voulu donner le prix à la jeunesse. Le testament des Goncourt était ainsi rédigé, que le prix devait aller à la jeunesse, virgule, à l'originalité du talent. Et Léon Daudet a considéré que c'était à la jeunesse du talent, et à l'originalité du talent, et que cette jeunesse du talent correspondait parfaitement à ce qu'avait écrit Proust, qui inventait un nouveau roman, alors que Dorgelès, lui, continuait sur des recettes un peu éprouvées de naturalisme, de réalisme. Donc ça, c'était la question de l'âge. Il y avait des questions financières.
Juste, je fais une petite parenthèse, question de l'âge qui ne sera plus du tout prise en compte les années suivantes, au regard du palmarès, qui récompense Lucien Baudard et Marguerite Duras, à quelques années d'écart, mais qui ont déjà environ 70 ans.
Oui. Marguerite Duras, en 84, avait 70 ans. Donc, la question ne s'est plus posée à ce moment-là. Et il est vrai que l'Académie Goncourt avait peut-être à se rattraper de ne pas avoir couronné Marguerite Duras auparavant. Elle l'a fait, c'est bien, mais un peu tard peut-être. En tout cas, pour Proust, la question s'est posée dans ces termes-là. Proust et ses amis ont défendu la conception de la jeunesse du talent, mais il y avait la question financière qui allait aussi avec l'âge, et on faisait remarquer que Proust
n'était pas assez pauvre,
était très riche, que c'était un nabab. Il y avait d'ailleurs des allusions à peine voilées aux origines de sa famille maternelle, en tout cas, puisqu'on disait que c'était les Rothschild qui avaient triomphé. Donc les Rothschild, on comprend ce qu'il y a derrière ce mot, tant en origine religieuse qu'en argent.
Mais d'ailleurs, à cette époque, est-ce que Proust, qui en effet avait une belle fortune, un temps n'était pas plutôt dans une situation précaire et il avait été en partie ruiné, n'est-ce pas ?
Oui, il considérait être ruiné. Je pense qu'il avait encore un peu d'argent, mais par rapport au train de vie qui avait été le sien avant la guerre, il y avait une belle différence. Et les 5000 francs, sans doute, lui ont été agréables, mais il pouvait s'en passer tout de même. Roland Dorgelès n'était pas pauvre non plus. On voit pendant la guerre que sa famille lui envoie des victuailles assez luxueuses et qu'il ne mourrait pas de faim du tout. Mais il était journaliste et peut-être le prix lui aurait-il permis de ne se consacrer qu'à l'écriture.
En tout cas, c'est un acteur important, Roland Dorgelès, dans la campagne contre Marcel Proust après le prix Goncourt. Et on voit bien qu'il a une attitude très ambiguë tout au long des semaines qui suivent, voire contestable. Parce que, premièrement, il faut dire qu'il obtient néanmoins le prix Femina, qui donc à l'époque est constitué, comme c'est toujours le cas aujourd'hui d'ailleurs, d'un jury exclusivement féminin. C'est un prix qui est très apprécié, et donc ces dames du Femina font réparation en lui octroyant le prix. Mais Dorgelès, avec la complicité de son éditeur certainement, fait rééditer son roman avec un bandeau sur lequel en gros il y a écrit « Prix Goncourt » et en petit « À quatre voix contre six ». Et ensuite seulement le prix Femina. ce n'est pas très élégant quand même.
Oui, il y a eu un procès d'ailleurs qui a suivi cette histoire pour ce qu'on appelait un vol de publicité. Les éditions Gallimard ont attaqué les éditions Albin Michel, ont gagné le procès. Albin Michel a été condamné à verser 2000 francs à Gallimard, qui a employé cela pour faire de la réclame pour l'homme d'un fils en fleurs, et a enlevé la bande. Mais enfin, le mal était fait, parce que le procès a été jugé au printemps suivant, et les ventes des jeunes filles en fleurs ont été bien moins importantes que celles des croix de bois. Mais c'était déjà le cas avant même la récompense, parce que, en effet, le livre de Dorgelès pouvait plaire beaucoup plus au public que celui de Proust.
Alors, ce que l'on apprend aussi dans votre livre, Thierry Lager, c'est que beaucoup de moqueries, voire des insultes, si ce n'est des injures. Alors certes, des félicitations à son chevet, plus de 1000 lettres pour lui dire combien c'est une chose juste qu'il ait eu ce Goncourt. Et néanmoins, il ne répond pas à ces insultes. Lui, Marcel Proust, reste noble.
Oui, il considérait que ça aurait été faire trop d'honneur à ces gens qui l'attaquaient très bassement. Je cite dans mon livre des textes ahurissants, vraiment ahurissants, où on parle de petites coliques d'enfants, et quand c'est son livre.
Il y a une violence terrible.
On dit que ce n'est rien, rien du tout. Qu'il n'y a pas de style, qu'il n'y a aucun intérêt. On le décrit lui-même comme un ahuri, tantôt comme une chochotte, tantôt comme un vieux pervers. Enfin, c'est très très violent. Et que répondre à cela? Je crois qu'il avait compris déjà une règle qui est peut-être enseignée dans les écoles de communication, que face à un déferlement de mauvaise foi, le silence vaut mieux, parce que qui s'excuse s'accuse.
En tout cas, c'est assez spectaculaire de voir ce déferlement dans la presse, essentiellement évidemment la presse parisienne, parce que la presse régionale ne s'en préoccupe pas autant, déferlement de violence contre Marcel Proust. Alors, autre reproche qui lui est fait, c'est que son texte est illisible. C'est peut-être le moment, Thierry Lager, de rappeler à nos auditeurs le sujet de ce roman « À l'ombre des jeunes filles en fleurs ».
Oui, c'est la suite du côté Gessoin, donc il est difficile de l'isoler du reste, mais c'est un roman qui raconte des amours adolescentes avec des jeunes filles à Paris, avec Gilberte, qu'on a déjà vu du côté Gessoin, et à Cabourg, une cité, une ville balnéaire, avec des jeunes filles qui passent sur la plage, qui sont... enfin, je dis Cabourg, mais en fait c'est Balbec.
Balbec dans le roman,
dans
oui.
Le roman. Des jeunes filles qui sont là aussi tantôt évanescentes, tantôt bien réelles, et qui font de la bicyclette, qui courent, qui vont voir un peintre, Elstir, etc. Enfin, c'est un roman, à vrai dire, où il ne se passe pas grand-chose, si ce n'est la vie quotidienne, les pensées, la volonté d'écrire, la volonté d'être proche de l'art, etc. Donc, évidemment, après la guerre de 14, les anciens combattants ne pouvaient être que choqués par cette vision idyllique, eux qui avaient connu la mort et la boue et le sang et les tranchées.
En tout cas, un roman porté par une écriture, une langue, un style incomparable, comme on peut l'entendre dans cet extrait de « À l'ombre des jeunes filles en fleurs » lu par le comédien Lambert Wilson.
Ma mère, quand il fut question d'avoir pour la première fois Monsieur de Norpois à dîner, ayant exprimé le regret que le professeur Cottard fût en voyage et qu'elle-même eût entièrement cessé de fréquenter Swann, car l'un et l'autre eussent sans doute intéressé l'ancien ambassadeur, mon père répondit qu'un convive éminent, un savant illustre comme Cottard, ne pouvait jamais mal faire dans un dîner, mais que Swann, avec son ostentation, avec sa manière de crier sur les toits ses moindres relations, était un vulgaire esbroufeur que le marquis de Norpois eût sans doute trouvé, selon son expression, puant. Or, cette réponse de mon père demande quelques mots d'explication, certaines personnes se souvenant peut-être d'un Cottard bien médiocre et d'un Swann poussant jusqu'à la plus extrême délicatesse en matière mondaine, la modestie et la discrétion.
Voilà. Dans la voix du comédien Lambert Wilson, un extrait de ce roman « À l'ombre des jeunes filles en fleurs » qui donc, pendant un an, grâce et à cause du prix Goncourt, va être à la fois applaudi et critiqué. Mais au final, Thierry Lager, est-ce qu'on peut dire que, en dépit d'ailleurs de son prix un peu plus élevé en raison de son volume de pages, de son tirage épuisé le jour J, parce qu'il va falloir attendre le 18 décembre pour le trouver à nouveau en librairie, est-ce qu'on peut dire que c'est un succès en termes de vente, toutes les années confondues bien entendu, et en termes de notoriété pour Marcel Proust?
Oui, c'est vraiment le moment où Marcel Proust devient célèbre, parce que toute la presse a parlé de lui, et pas seulement à Paris, dans toute la France, et à l'étranger. On a retrouvé des coupures de presse dans des journaux de Buenos Aires, de Shanghai, etc. Donc vraiment, le prix Goncourt avait un rôle prescripteur considérable déjà à cette époque dans le monde entier. Donc la gloire de Proust devient immense, cela profite aux éditions Gallimard, qui deviennent l'éditeur le plus important de l'époque à partir de ce moment-là. C'est le premier prix Goncourt, il en a obtenu bien d'autres depuis. Proust lui-même connaîtra, après sa mort, une période de purgatoire à partir des années 30. Mais à partir de 1950, on voit que Roland Dorgelès est considéré comme le grand écrivain et Proust un écrivain du dernier rayon. Mais à partir de 1950, les choses s'inversent. Et aujourd'hui, on lit encore Dorgelès, mais beaucoup moins que Proust. Et Proust est le plus grand écrivain français, je pense que tout le monde s'accorde à le dire, et peut-être même le plus grand écrivain tout court du XXe siècle.
Pour finir, donc, le Goncourt, c'est à la fois une joie et une souffrance. À l'image de cet extrait du manuscrit de Marcel Proust que vous reproduisez en fin de votre ouvrage, Thierry Lager, où on entend à la fois le bonheur et le malheur qu'a pu apporter ce prix. Si vous voulez bien nous lire un passage.
Oui. À chaque époque de la vie, l'oubli de ce qu'on a été est si profond chez les contemporains, fait, il est vrai, de jeunes gens qui ne savent pas encore, de vieillards qui ont oublié, qu'on est obligé, moi, prix Goncourt, de faire face, si connu qu'on ait été, à l'ignorance du milieu ambiant. Je me ferai connaître par un livre, car ce sera sans doute dans la fin même à propos du livre que je veux faire. Et on dirait de moi, qui est-ce? Et si nous tenions à ce qu'on ne dise pas sur nous les folies qu'engendre le besoin de parler, quand quelques renseignements ne le guident pas, nous serions obligés de décliner nos titres et qualités, de dire qui nous étions de l'autre côté du temps, nos dernières années étant comme un pays inconnu où nous débarquons et où ceux qui l'habitent n'ont jamais entendu prononcer notre nom.
Merci beaucoup Thierry Lager d'avoir redonné la voix de Marcel Proust à ce micro. Encore un mot, il me semble que votre livre est en lice pour le Goncourt de la biographie qui sera annoncé le 4 juin chez Drouan. Quelle a été votre stratégie?
Je dois dire que je n'ai absolument aucune stratégie parce que contrairement à Proust, je n'ai fait absolument rien pour,
aucune
pour
démarche,
obtenir ce résultat, aucune démarche,
aucun rien, courrier,
non, rien, rien du tout.
Aucune sollicitation.
Aucune sollicitation.
Donc c'est un prix qui sera obtenu, si c'est le cas.
Si c'est le cas, oui.
En toute transparence.
En toute transparence et en toute indépendance de la part du jury qui, si, je dois dire que s'il le donnait, ferait preuve de magnanimité et d'humour.
Merci beaucoup Thierry Lager. Je rappelle donc le titre de ce livre, Proust, prix Goncourt, une émeute littéraire qui a paru aux éditions Gallimard. Et sur la page internet de l'émission Littérature sans frontières sur RFI, vous retrouverez également d'autres références de publications récentes tout aussi passionnantes à découvrir autour de Marcel Proust. On se retrouve demain pour une autre émission consacrée à l'écrivain avec un reportage en Eure-et-Loire dans la maison même où le petit Marcel a passé quelques vacances enfant et lieu qui lui a inspiré en partie à la recherche du temps perdu. Dans cette ville intitulée Combrée dans l'œuvre, il y est dans la réalité mais qui depuis est devenu il y est Combrée. Et puis dans le cadre du printemps proustien qui s'est déroulé à Chartres, nous irons à la rencontre de son traducteur japonais, de son biographe américain et de deux écrivaines qui ont travaillé l'une sur l'humour de Proust et l'autre, entre autres, sur le questionnaire. À demain.